Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Traduit de l'anglais du Nigeria par Anne Damour. Ce livre est dédié à notre prochaine génération. Ndi Naabia Niru. Tox, Chisom, Amaka, Chinedum, Kamsiyona et Arinze. À mon merveilleux père en cette année de ses 80 ans. Et comme toujours, à Ivara. Première partie. Chapitre 1. Princeton, en été, n'avait pas d'odeur. Et si Ifemelu appréciait le calme verdoyant de ses nombreux arbres, ses rues propres et ses majestueuses maisons, ses magasins au prix subtilement exagéré et son air tranquille, immuable de grâce méritée, c'était cette absence d'odeur qui la séduisait le plus. Peut-être parce que les autres villes américaines qu'elle connaissait dégageaient toutes des effluves caractéristiques. Philadelphie exhalait le parfum suranné du passé. New Haven sentait l'abandon. Baltimore, l'océan et Brooklyn, les ordures pourrissaient au soleil. Mais Princeton n'avait pas d'odeur. Elle aimait y respirer à plein poumon. Elle aimait observer les habitants qui conduisaient leur voiture dernier cri avec une courtoisie particulière et se garer devant l'épicerie bio de Nassau Street ou le restaurant de sushi ou devant le vendeur de glace aux 50 parfums, poivrons inclus, ou devant la poste dont le personnel s'empressait de les accueillir à l'entrée. Elle aimait le campus, empreint de la gravité du savoir, ses bâtiments gothiques aux murs drapés de lierre et la manière dont tout y prenait, dans la pénombre de la nuit, un aspect fantomatique. Elle aimait par-dessus tout pouvoir prétendre, dans ce lieu où régnait l'abondance, être quelqu'un d'autre, admis par faveur dans le club consacré de l'Amérique, quelqu'un auréolé d'assurance. Mais elle n'aimait pas devoir se rendre à Trenton pour faire tresser ses cheveux. Espérer trouver un coiffeur de tresse à Princeton n'était pas raisonnable. Les rares résidents noirs qu'elle y avait vus avaient la peau si claire et les cheveux si raides qu'elle ne pouvait les imaginer tressés. Et pourtant, en attendant son train à la gare de Princeton Junction, par un après-midi blanc de chaleur, elle se demandait pourquoi il n'existait aucun endroit où elle pourrait se faire coiffer. Le chocolat avait fondu dans son sac. Quelques voyageurs attendaient sur le quai. Tous blancs et minces, en shorts et vêtements légers. L'homme qui était le plus près d'elle mangeait un cornet de glace. Il lui avait toujours semblé un peu ridicule que des Américains adultes, des hommes, lèchent des cornets de glace, surtout en public. Il se tourna vers elle et dit, quand le train arriva enfin dans un crissement de frein, « Ce n'est pas trop tôt. » Avec la familiarité que partagent des étrangers déçus par un service public. Elle lui sourit. Ses cheveux grisonnants étaient ramenés vers l'avant, un artifice risible destiné à masquer sa calvitie. Sans doute professeur d'université, mais pas de sciences humaines, sinon il aurait été plus emprunté. Une science dure, comme la chimie peut-être. Autrefois, elle aurait dit « Je sais ». Cette expression bien américaine qui marque l'approbation plutôt que la connaissance. Puis elle aurait entamé une conversation avec lui dans l'espoir d'en recueillir quelque chose d'intéressant pour son blog. Les gens étaient flattés qu'on les interroge sur eux-mêmes, et si elle se taisait après les avoir écoutés parler, ils étaient poussés à en dire davantage. Ils étaient conditionnés à remplir les silences. Si on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait vaguement « Je rédige un blog sur les modes de vie », car dire j'écris un blog anonyme intitulé « Race Tinth » ou « Observations diverses sur les Noirs américains, ceux qu'on appelait jadis les nègres, par une Noire non-américaine » les aurait mis mal à l'aise. Elle l'avait dit parfois, cependant. Un blanc coiffé de dreadlocks qui était assis à côté d'elle dans le train, ses cheveux semblables à de vieilles ficelles terminées par un duvet blond, sa chemise déchirée portée avec suffisamment de ferveur pour la convaincre qu'il était un activiste social qu'elle pourrait inviter sur son blog. De nos jours, la race est un concept totalement surfait. Les Noirs doivent en finir avec ça. Tout ce qui importe aujourd'hui, c'est la catégorie sociale, les possédants et les autres, avait-il dit calmement. Et elle l'avait utilisé comme accroche d'un poste intitulé « Non, tous les Américains blancs qui portent des dreadlocks n'ont pas le moral à zéro ». Puis il y eut le type de l'Ohio qui était coincé contre elle dans un avion. Un cadre moyen. Elle en était sûre vu son costume droit et son col dont la couleur tranchait avec celle de sa chemise. Il voulait savoir ce qu'elle entendait par blog sur les modes de vie. Et elle le lui avait expliqué, s'attendant à le voir se fermer ou mettre fin à la conversation par une phrase vaguement dissuasive comme « La seule race qui compte est la race humaine ». Mais il avait dit « Avez-vous jamais écrit sur l'adoption ? Personne ne veut de bébé noir dans ce pays, et je ne parle pas de bébé métis, je veux dire noir, même les familles noires n'en veulent pas ». Il lui avait raconté que sa femme et lui avaient adopté un enfant noir, et que leurs voisins les regardaient comme s'ils avaient choisi de devenir les martyrs d'une cause discutable. L'article de son blog le concernant « Les cadres moyens blancs mal habillés de l'Ohio ne sont pas toujours ce que vous pensez » était celui qui avait reçu le plus de commentaires ce mois-là. Elle se demandait s'il l'avait lu. Elle espérait que oui. Souvent, assise dans un café, un aéroport ou une gare, elle observait les étrangers, imaginait leurs existences, se demandant lesquelles avaient lu son blog. Aujourd'hui, son ex-blog. Elle avait écrit son dernier post quelques jours auparavant, et il avait jusqu'à présent donné lieu à 274 commentaires. Tous ses lecteurs, plus nombreux de mois en mois, qui échangeaient leurs posts, qui en savaient beaucoup plus qu'elle, ces lecteurs-là l'avaient toujours effrayée et ravie. Safik Derrida, une des contributrices les plus fréquentes, avait écrit « Je suis un peu surprise de prendre tout cela aussi personnellement. Bonne chance dans votre quête d'un changement de vie, mais s'il vous plaît, regagnez vite la blogosphère. Vous avez utilisé votre voix impertinente, insistante, drôle et sagace pour créer un espace de véritable échange sur un sujet important. » Des lecteurs comme Safik Derrida, qui dévidaient des statistiques et utilisaient des mots comme « chosifié » dans leurs commentaires, agaçaient Ifemelu, la poussant à se montrer arrogante et à se mettre en valeur, si bien qu'elle avait fini peu à peu par se comparer à un vautour dépouillant les histoires des autres pour y trouver quelque chose à utiliser, établissant parfois de fragiles rapports à la race, auxquels il lui arrivait de ne pas croire elle-même. Plus elle écrivait, moins elle se sentait sûre d'elle. Chaque poste lui ôtait un peu de sa personnalité et elle finit par se sentir vulnérable et fausse. L'homme à la glace s'assit à côté d'elle dans le train et, pour décourager la conversation, elle garda les yeux fixés sur une tache marron près de ses pieds, une éclaboussure de café, jusqu'à leur arrivée à Trenton. Le quai était bondé de noir, généralement gros, court vêtu. Elle s'étonna à nouveau que tout soit si différent après un trajet en train de quelques minutes. Au cours de sa première année en Amérique, quand elle prenait le New Jersey Transit jusqu'à Penn Station, puis le métro pour rendre visite à Tante Uju à Flatlands, elle avait été frappée par la minceur des Blancs qui descendaient aux stations de Manhattan, alors que plus le train s'enfonçait dans Brooklyn, plus les passagers restants étaient noirs et gros. Mais à l'époque, elle ne les qualifiait pas de gros. Elle disait d'eux qu'ils étaient costauds, parce que l'une des premières choses que son amie Guinica lui avait apprises était que le terme de gros était péjoratif en Amérique, chargé d'un jugement moral comme stupide ou salaud, et pas uniquement descriptif comme petit ou grand. Aussi avait-elle banni le mot gros de son vocabulaire. Mais gros avait réapparu l'hiver précédent, au bout de 13 années, quand un homme dans la queue derrière elle, au supermarché, avait marmonné « Les gros n'ont qu'à pas manger toute cette saloperie !» tandis qu'elle payait son sac géant de Tostitos. Elle l'avait regardé, surprise, un peu vexée, et pensait qu'il serait un sujet parfait pour son blog, cet inconnu qu'il avait traité de grosse. Elle le rangerait dans la rubrique « race, genre et volume corporel ». Mais de retour chez elle, devant la glace, elle s'était rendue compte qu'elle avait négligé, pendant trop longtemps, le fait que ses vêtements étaient devenus trop étroits, que ses cuisses frottaient l'une contre l'autre, que les parties plus molles, plus rondes de son corps tremblotaient quand elle bougeait. Elle était grosse. Elle avait articulé le mot « grosse », lentement, le ravalant aussitôt prononcé, puis songer à tout ce qu'elle avait appris à ne pas dire à haute voix en Amérique. Elle était grosse. Elle n'était ni bien en chair ni robuste. Elle était grosse. C'était le seul mot qui sonnait juste. Et elle l'avait négligé, aussi, le durcissement de son âme. Son blog était un succès, avec des milliers de visiteurs tous les mois. Elle percevait des honoraires de conférencière substantielle. Elle avait eu une bourse de Princeton et une liaison avec Blaine. « Tu es l'unique amour de ma vie », avait-il écrit sur la dernière carte qu'il lui avait envoyée pour son anniversaire. Et pourtant, son âme s'était durcie. Elle le sentait depuis un certain temps. Un sentiment d'épuisement tôt le matin, de flou, de non-appartenance. Il était chargé d'attentes informulées, de désirs mal définis, de brèves visions des existences différentes qu'elle aurait pu vivre. Et au fil des mois, il s'était transformé en un violent mal du pays. Elle parcourut des sites internet nigérians, des profils nigérians sur Facebook, des blogs nigérians, et chaque clic révélait le récit d'un jeune qui était rentré au pays depuis peu, bardé de diplômes américains ou anglais, pour y créer une société d'investissement, une affaire de production musicale, un label de mode, un magazine, une franchise de fast-food. Elle regardait les photos de ces hommes et de ces femmes et ressentait la sourde douleur d'une perte, comme s'ils avaient ouvert sa main de force et pris quelque chose qui lui appartenait. Il vivait sa vie. Le Nigeria devint l'endroit où elle devait être, le seul endroit où elle pouvait enfuir ses racines sans éprouver en permanence le désir de les arracher et d'en secouer la terre. Et naturellement, il y avait aussi Obinze, son premier amour, son premier amant, le seul être avec lequel elle n'avait jamais ressenti le besoin d'expliquer qui elle était. Il était à présent marié et père de famille. Il n'avait eu aucun contact depuis des années. Pourtant, elle ne pouvait prétendre qu'il était étranger à son mal du pays, qu'elle ne pensait pas à lui, remuant les souvenirs de leur passé, cherchant les présages de ce qu'elle ne pouvait pas nommer. L'inconnu grossier du supermarché, plongé dans des problèmes que lui aussi devait affronter, la mine défaite et les lèvres serrées, avait eu l'intention de la choquer, mais l'avait poussée au contraire à se réveiller. Elle se mit à faire des projets, à caresser des rêves, à répondre à des propositions de travail à Lagos. Elle n'en dit rien à Blaine au début, car elle voulait poursuivre ses études à Princeton jusqu'à la fin de sa bourse. Et ensuite, elle resta silencieuse parce qu'elle voulait se donner le temps d'être sûre d'elle. Mais, les semaines passant, elle se rendit compte qu'elle ne serait jamais sûre. Aussi lui annonça-t-elle qu'elle retournait chez elle en ajoutant « Il le faut ». Sans ignorer qu'il percevrait dans ses mots le ton d'une rupture. Pourquoi ? Demanda Blaine presque machinalement, stupéfié par ce qu'elle venait de lui annoncer. Ils étaient là, tous les deux, dans son salon de New Haven, baigné de lumière et d'un fond de jazz, et elle le regarda, cet homme bon, interloqué, et sut que la journée allait prendre un tour épique et triste. Ils avaient vécu ensemble pendant 3 ans, 3 années sans heurts, lisses comme des draps fraîchement repassés, jusqu'à leur unique dispute, quelques mois plus tôt, lorsque le regard de Blaine s'était empli de reproches et qu'il avait refusé de lui parler. Mais ils avaient survécu à cette dispute, en grande partie grâce à Barack Obama, scellant à nouveau leur passion commune. Le soir de l'élection, avant de l'embrasser, le visage mouillé de larmes, Blaine l'avait serré contre lui, comme si la victoire d'Obama était aussi leur victoire personnelle. Et maintenant, elle lui disait que c'était fini. Pourquoi ? Demanda-t-il. Il enseignait les notions de subtilité et de complexité dans ses cours, et malgré tout, il lui demandait de fournir une seule raison, la cause. Mais elle n'avait pas eu de révélation soudaine, et il n'y avait pas de cause. C'était simplement que, peu à peu, l'insatisfaction s'était installée en elle jusqu'à former une masse qui, aujourd'hui, la poussait irrésistiblement à aller de l'avant. Elle ne le lui dit pas, car il aurait été blessé en apprenant que cette impression durait depuis un certain temps, que sa relation avec lui consistait seulement à vivre heureuse dans une maison où elle restait assise à la fenêtre à regarder au dehors. « Emporte la plante, » lui dit-il le dernier jour, tandis qu'elle emballait les vêtements qu'elle avait laissés dans son appartement. Il avait l'air défait, affalé sur une chaise dans la cuisine. La plante verte était à lui, avec ses feuilles prometteuses qui s'élançaient à partir de 3 tiges de bambou, et quand elle l'a pris, elle se sentit accablée par une soudaine nostalgie qui demeura en elle durant des semaines. Elle la sentait encore parfois. Comment pouvait-on regretter quelque chose dont on ne voulait plus? Blaine désirait ce qu'elle n'était plus capable de lui donner, et elle avait besoin de ce qu'il ne pouvait pas lui offrir, et c'était ce qu'elle pleurait, la perte de ce qui aurait pu être. La voilà donc, un jour éclatant d'été, sur le point d'aller faire tresser ses cheveux pour le voyage qui la ramènerait chez elle. Une chaleur moite collait à sa peau. Il y avait des personnes 3 fois plus corpulentes qu'elle sur le quai à Trenton, et elle regarda l'une d'elles avec admiration, une femme en jupe ultra courte. Qu'une mini-jupe mette en valeur des jambes minces lui importait peu, après tout c'était normal et facile d'exposer des jambes que tout le monde admirait. Mais cette grosse femme agissait avec la calme conviction qu'on ne partage qu'avec soi-même, la certitude de son bon droit que les autres ne voyaient pas. Sa propre décision de rentrer au pays était similaire. Chaque fois qu'elle se sentait assiégée par le doute, elle s'imaginait qu'elle faisait front seule avec courage, presque héroïque, afin de juguler son indécision. La grosse femme accompagnait un groupe d'adolescents, des jeunes de 16 ou 17 ans. Ils étaient attroupés, le nom de leur programme d'été imprimé sur le devant et le dos de leur t-shirt jaune, et ils bavardaient et riaient. Leur vue rappela à Ifemelu son cousin Dike. Un des garçons, un grand brun, avec la musculature fine d'un athlète, lui ressemblait. Sauf que Dike n'aurait jamais porté ce genre de chaussures semblables à des espadrilles. « Des pompes complètement nulles », aurait-il dit. C'était un mot nouveau. Il l'avait employé pour la première fois quelques jours plus tôt, en lui racontant qu'il avait été faire des courses avec tante Uju. « Maman voulait m'acheter ces chaussures ridicules. « Écoute, cousine, tu sais bien que je ne peux pas porter des pompes aussi nulles. » Ifemelu rejoignit la file d'attente pour les taxis à la sortie de la gare. Elle espérait que son chauffeur ne serait pas un Nigérian, car dès qu'il reconnaîtrait son accent, soit il s'empresserait de lui dire qu'il était diplômé de l'université, que le taxi était un travail d'appoint et que sa fille figurait au tableau d'honneur de Rogers, soit il conduirait dans un silence maussade, lui rendrait sa monnaie en ignorant son « merci », remâchant son humiliation parce que cette compatriote nigériane, petite de surcroît, qui était peut-être infirmière ou comptable, voire médecin, le regardait de haut. Les chauffeurs de taxi nigériens en Amérique étaient tous convaincus de n'être pas réellement des chauffeurs de taxi. Elle était la prochaine dans la queue. Son chauffeur était noir et d'âge moyen. Elle ouvrit la portière et jeta un coup d'œil au dossier du siège du conducteur. Mervyn Smith. Pas nigérian, mais qui sait. Les Nigérians prenaient ici toutes sortes de noms. Même elle avait un jour été quelqu'un d'autre. « Comment ça va ?» demanda l'homme. Elle se rendit compte aussitôt avec soulagement qu'il avait l'accent caribéen. « Très bien, merci. » Elle lui donna l'adresse du Mariama African Hair Braiding. C'était la première fois qu'elle se rendait dans ce salon de coiffure. Son coiffeur habituel était fermé parce que le propriétaire était rentré en Côte d'Ivoire pour se marier. Mais il ressemblait sûrement à tous les autres salons de natage qu'elle avait connus. Il se trouvait dans cette partie de la ville pleine de graffitis, de bâtiments insalubres, sans un seul blanc à l'horizon, avec des enseignes affichant des noms tels Kaïcha, et Fatima African Hair Braiding, des radiateurs trop chauds en hiver et des appareils de climatisation qui ne refroidissaient rien en été. Et ils étaient pleins de coiffeuses francophones d'Afrique occidentale, dont l'une était la patronne et parlait bien anglais, répondait au téléphone et était traitée avec respect par les autres. Souvent, l'une d'entre elles portait un bébé dans le dos, maintenu par une bande d'étoffe. Où il y avait un gamin endormi sur un canapé défoncé recouvert d'un peignoir. parfois entraient des enfants plus âgés. Les conversations étaient animées et bruyantes, en français, en wolof ou en malinkais, et quand elles s'adressaient en anglais aux clientes, elles parlaient bizarrement, comme si elles n'avaient pas vraiment tout à fait intégré la langue elle-même avant d'adopter des américanismes argotiques. Les mots sortaient de leur bouche incomplets. Un jour, une coiffeuse guinéenne avait dit à Ifemelu « Mi comme odio zivol ». Elle avait dû la faire répéter plusieurs fois avant de comprendre ce qu'elle disait. « Je suis comme, oh Dieu, si folle !» Mervyn Smith était enjoué et bavard. Il dit, tout en conduisant, qu'il faisait trop chaud, qu'il fallait sûrement s'attendre à des coupures d'électricité. « C'est le genre de chaleur qui est fatal aux vieux. S'ils n'ont pas la climatisation, il faut qu'ils aillent au centre commercial, vous savez. Au centre commercial, l'air conditionné est gratuit. Mais des fois, il n'y a personne pour les y conduire. Il faut que les gens prennent soin des vieux, » dit-il, son humeur joyeuse insensible au silence d'Ifemelu. Nous y voilà, » dit-il en s'arrêtant devant un immeuble miteux. Le salon était coincé entre un restaurant chinois, appelé Happy Joy, et une épicerie qui vendait des billets de loterie. À l'intérieur, la pièce était un modèle de laisser-aller, avec sa peinture écaillée, ses murs recouverts de grands posters de différents styles de natage, et de plus petits, qui proclamaient « remboursement rapide des taxes ». Trois femmes, en bermuda et t-shirt, étaient occupées à coiffer des clientes assises. Une petite télévision dans un angle du mur, le son réglé un peu trop fort, projetait un film nigérian, un homme qui battait sa femme, la femme qui tentait de se protéger et criait. La piètre qualité audio de l'appareil écorchant les oreilles. Bonjour, dit Ifemelu. Elles se retournèrent toutes pour la regarder, mais une seule, sans doute la Mariama de l'enseigne, dit bonjour, bienvenue. Pouvez-vous me faire des tresses? Quel genre de tresses? Ifemelu dit qu'elle voulait des vanilles et demanda quel était le prix. 200, répondit Mariama. J'ai payé 160 le mois dernier. Elle avait fait tresser ses cheveux 3 mois auparavant. Mariama resta silencieuse un moment, les yeux à nouveau fixés sur les cheveux qu'elle nattait. Alors 160? Demanda Ifemelu. Mariama haussa les épaules et sourit. D'accord, mais il faudra revenir ici la prochaine fois. Asseyez-vous. Aïcha va s'occuper de vous, elle a bientôt fini. Mariama désigna la plus petite des coiffeuses, qui avait un problème de peau, des spirales rosées de décoloration sur les bras et le cou, à l'air contagieux peu rassurant. « Bonjour, Aïcha, » dit Ifemelu. Aïcha la regarda, hocha à peine la tête, le visage fermé, presque hostile dans son absence d'expression. Il y avait quelque chose d'étrange dans son attitude. Ifemelu s'assit près de la porte. Le ventilateur sur la table écaillée était réglé au maximum, mais n'avait pratiquement aucun effet sur la touffeur de la pièce. À côté du ventilateur étaient posés des peignes, des paquets de pinces, d'épais magazines dont certaines pages étaient déchirées, des piles de DVD multicolores. Un balai était appuyé contre le mur dans un coin, près d'un distributeur de bonbons et du sèche-cheveux rouillé qui n'avait pas servi depuis un siècle. Sur l'écran de la télé, un père battait 2 enfants. Simulant des coups qui frappaient l'air au-dessus de leur tête. « Non, méchant père, méchant homme !» dit l'autre coiffeuse en frissonnant, l'œil rivé sur la télévision. « Vous êtes du Nigeria ?» demanda Mariama. « Oui, » dit Ifemelu. « Et vous ?»« Ma sœur Halima et moi sommes du Mali. Aïcha vient du Sénégal. » Aïcha ne leva pas les yeux, mais Halima adressa un sourire à Ifemelu. Un sourire qui, dans sa chaleureuse complicité, accueillait une sœur d'Afrique. Elle n'aurait pas souri ainsi à une Américaine. Elle louchait fortement, ses pupilles pointant dans des directions opposées, déconcertant Ifemelu qui ne savait pas quel œil d'Halima était posé sur elle. Ifemelu s'éventait avec un magazine. « Il fait tellement chaud !» dit-elle. Enfin, des femmes qui ne lui diraient pas « Vous avez chaud? Pourtant, vous venez d'Afrique. » La vague de chaleur est épouvantable. « Désolée, la climatisation est tombée en panne hier, » dit Mariama. Ifemelu savait que la climatisation n'était pas tombée en panne la veille. Elle était en panne depuis beaucoup plus longtemps. Sans doute avait-elle toujours été en panne. Pourtant, elle hocha la tête et dit qu'elle avait peut-être rendu l'âme à force d'avoir servi. Le téléphone sonna. Mariama décrocha et au bout d'une minute dit « Venez maintenant ». Les paroles mêmes qui avaient décidé Ifemelu à cesser de prendre des rendez-vous avec les salons de coiffure africains. « Venez maintenant, disait-il toujours, et ensuite, vous arriviez et trouviez deux personnes en train d'attendre qu'on leur fasse des micro-tresses et la propriétaire qui disait « Attendez, ma sœur va venir m'aider ». Le téléphone sonna à nouveau et Mariama parla en français, haussant la voix, et elle s'arrêta de natter pour agiter la main tout en criant dans le téléphone. Puis elle tira un imprimé jaune de la Western Union de sa poche et se mit à lire les chiffres. 5. La femme dont elle nattait les cheveux en de minuscules tresses collées dit d'un ton sec « Hé, je ne vais pas passer toute la journée ici !»« Désolée, dit Mariama. » Elle finit malgré tout d'énumérer les chiffres de la Western Union avant de se remettre à tresser, le téléphone coincé entre son épaule et son oreille. Ifemelu ouvrit son roman « Kane » de Jean Toomer et parcourut quelques pages. Cela faisait un certain temps qu'elle avait l'intention de le lire. Elle se disait qu'il lui plairait puisque Blaine ne l'aimait pas. « Une belle performance !» avait dit Blaine, de ce ton gentiment patient qu'il employait quand il discutait de romans. Comme s'il était sûr qu'avec un peu plus de temps et un peu plus de discernement, elle en viendrait à reconnaître que les romans qu'il aimait étaient supérieurs. Des romans écrits par des hommes jeunes et juvéniles, avec de la matière, une accumulation fascinante, déconcertante de marques, de musique, de bandes dessinées et d'icônes, saupoudrées d'un zeste d'émotion et dont chaque phrase était élégamment consciente de sa propre élégance. Elle en avait lu un certain nombre parce qu'il les lui avait recommandés, mais ils ressemblaient à de la barbe à papa qui s'évaporait si facilement de sa mémoire gustative. Elle referma le livre. Il faisait trop chaud pour se concentrer. Elle goûta un peu de chocolat fondu, envoya un texto à Dickey, lui demandant de la rappeler quand il aurait fini son entraînement de basket, et s'éventa. Elle lut les inscriptions sur le mur en face d'elle. « Pas d'ajustement de tresse après une semaine. Les chèques ne sont pas acceptés. Pas de ristourne. » Mais elle évita soigneusement de regarder dans les coins de la pièce, car elle savait qu'elle y verrait des journaux moisis coincés sous des tuyaux, de la crasse et des choses depuis longtemps avariées. Aïcha en finit enfin avec sa cliente et demanda à Ifemelu quelle couleur elle désirait pour ses extensions. « Numéro 4. Ah, c'est pas une bonne teinte, » dit vivement Aïcha. « C'est celle que j'utilise. Elle a l'air sale, tu veux pas la numéro 1 ?» « Elle est trop noire, elle a l'air artificielle, » dit Ifemelu en détachant le foulard qui lui couvrait la tête. « Il m'arrive d'utiliser la numéro 2, mais la 4 est la plus proche de ma couleur naturelle. » Aïcha haussa les épaules, un geste hautain, comme si le manque de goût de sa cliente n'était pas son problème. Elle fouilla dans un placard, en sortit deux paquets d'extensions, vérifia qu'elles étaient toutes les deux de la même couleur. Elle toucha les cheveux d'Ifemelu. Pourquoi tu n'utilises pas de défrisant? J'aime mes cheveux tels que Dieu les a faits. Mais comment tu fais pour les peigner? Difficile à peigner, dit Aïcha. Ifemelu avait apporté son propre peigne. Elle peigna doucement ses cheveux épais, doux et bouclés, jusqu'à ce qu'ils encadrent sa tête comme un halo. Ils ne sont pas difficiles à peigner si vous les hydratez correctement, dit-elle avec le ton persuasif de la prosélyte qu'elle utilisait chaque fois qu'elle essayait de convaincre d'autres femmes noires des mérites d'une chevelure naturelle. Aïcha bougonna. Elle ne comprenait franchement pas comment quelqu'un pouvait choisir de souffrir en peignant des cheveux à l'état naturel au lieu de les défriser. Elle sépara en mèches les cheveux d'Ifemelu, prit une petite extension dans le tas posé sur la table et commença sa tresse. « C'est trop serré, » dit Ifemelu. « Ne serrez pas autant. » Comme Aïcha continuait à tresser, Ifemelu pensa qu'elle n'avait peut-être pas compris, et elle toucha du doigt la tresse en question et dit « Trop serré, trop serré !» Aïcha repoussa sa main. « Non, non, laisse, c'est bien !»«
C'est trop serré !» dit Ifemelu. « S'il vous plaît, desserrez-la !»
Mariama les observait. Un flot de français sortit de sa bouche. Aïcha desserra la tresse.
« Désolée, dit Mariama. Elle ne comprend pas bien. » Mais il était clair, à son expression, qu'Aïcha comprenait très bien. C'était simplement une femme rustique, insensible aux subtilités américaines de l'attention aux clients.
Ifemelu l'imaginait sur un marché à Dakar, comme les coiffeuses de Lagos qui se mouchaient dans leurs doigts et essuyaient leurs mains sur leurs peignoirs, manipulaient brutalement la tête de leur cliente pour leur donner une meilleure position, se plaignaient que les cheveux soient trop épais, trop courts ou trop raides, interpellaient les passantes tout en parlant trop fort et en tressant trop serré.
« Tu la connais ?» demanda Aïcha en jetant un regard à la télévision.
« Quoi ?» Aïcha répéta sa question et désigna l'actrice sur l'écran.
« Non, » dit Ifemelu.
« Mais tu es nigériane. »«
Oui, mais je ne la connais pas. »
Aïcha fit un geste en direction de la pile de DVD sur la table.
« Avant, trop de vaudou. Très mauvais. Maintenant, le film du Nigeria, très beau. Grande, belle maison. »
Ifemelu n'avait pas une haute opinion des films de Nollywood, avec leurs effets dramatiques exagérés et leurs scénarios improbables. Mais elle fit un signe d'assentiment, car entendre « Nigeria » et « bon » dans la même phrase était un luxe, même dans la bouche de cette étrange Sénégalaise, et elle choisit d'y voir un présage favorable à son retour au pays. Tous ceux qu'elle avait prévenus de son retour semblaient surpris, s'attendant à une explication. Et quand elle disait qu'elle le faisait uniquement parce qu'elle en avait envie, la perplexité ridait les fronts.
« Tu fermes ton blog et tu vends ton appart pour retourner à Lagos et travailler dans un magazine qui ne paie pas tellement bien », avait dit tante Oudjou, se répétant, comme pour faire comprendre à Ifemelu la gravité de son inconséquence. Seule sa vieille amie de Lagos, Raninu Do, avait trouvé normal qu'elle revienne.
Lagos est aujourd'hui rempli de rapatriés d'Amérique, et tu ferais bien de revenir et de te joindre à eux. On les voit du matin au soir avec une bouteille d'eau, comme s'ils avaient besoin de boire toutes les 5 minutes pour ne pas mourir de chaleur, avait-elle dit. Elles étaient restées en contact tout au long des années. Au début, elles s'écrivaient rarement, mais avec l'ouverture des cybercafés, le développement des téléphones portables et le succès de Facebook, elles s'étaient mises à communiquer plus souvent. C'était Raninu Do qui lui avait annoncé, quelques années plus tôt, qu'Obinze allait se marier.
« Il a beaucoup d'argent maintenant. Tu vois ce que tu as raté ?» avait-elle dit.
Ifemelu avait feint l'indifférence à l'annonce de cette nouvelle. Après tout, elle n'avait plus aucun contact avec Obinze. Le temps s'était écoulé et elle avait cette nouvelle relation avec Blaine, s'adapter sans mal à une vie de couple. Mais après avoir raccroché, elle n'avait cessé de penser à Obinze. L'imaginer le jour de son mariage lui laissait un vague sentiment de tristesse, une tristesse lointaine. Pourtant, elle était heureuse pour lui, se dit-elle, et pour s'en convaincre, elle décida de lui écrire. Elle n'était pas certaine qu'il ait conservé son ancienne adresse électronique, et elle envoya un email, s'attendant presque à ne pas avoir de réponse. Mais il répondit. Elle ne lui écrivit plus par la suite, car elle avait pris soudain conscience que brûlait en elle une petite flamme encore vivante. Mieux valait laisser les choses en paix. Au mois de décembre, lorsque Raninu Do lui avait raconté qu'elle l'avait rencontré par hasard dans le centre commercial de Palms avec sa petite fille, Ifemelu n'arrivait pas à se représenter ce nouveau centre moderne, gigantesque de Lagos. Elle se souvenait seulement du méga plaza Rikiki.
Il avait l'air si élégant et sa fille est si mignonne, avait dit Raninu Do.
Ifemelu avait eu le cœur serré à la pensée de tous les changements survenus dans la vie d'Obinze.
Les films du Nigeria, très bons maintenant, répéta Aïcha.
Oui, dit Ifemelu avec enthousiasme. Voilà ce qui lui arrivait. Elle était en quête de signes.
Les films du Nigeria étaient bons, donc rentrer au pays était bon. « Tu es Yoruba du Nigeria ?» dit Aïcha. « Non, je suis Igbo. »« Toi, Igbo ?» Pour la première fois, un sourire apparut sur le visage d'Aïcha. Un sourire qui découvrait autant ses petites dents que ses gencives foncées. Je pensais toi, Yoruba, parce que toi foncé et Igbo clair. J'ai deux hommes Igbo. Très bon, les hommes Igbo s'occupent bien des femmes. Aïcha chuchotait presque, une inflexion sexuelle dans le ton. Et dans la glace, les décolorations de ses bras et de son cou ressemblèrent soudain à d'affreuses plaies. Ifemelu imagina que certaines d'entre elles crevaient et suintaient, d'autres se descamaient. Elle détourna le regard. « Les hommes Igbo s'occupent bien des femmes, » répéta Aïcha. « Je veux me marier. Ils m'aiment mais disent que la famille veut une femme Igbo, parce que Igbo marie toujours Igbo. » Ifemelu réprima une envie de rire. « Vous voulez vous marier avec les deux ?»« Non !» Aïcha fit un geste d'impatience. « Je veux marier un. Mais c'est vrai ça, Igbo marie toujours Igbo. » Les Igbo se marient avec toutes sortes de gens. Le mari de ma cousine est Yoruba. La femme de mon oncle est écossaise. Aïcha abandonna sa torsade, observant Ifemelu dans la glace, comme si elle hésitait à la croire. « Ma sœur dit que c'est vrai. Igbo marie toujours Igbo. Comment votre sœur le sait-elle ? Elle connaît beaucoup d'Igbo en Afrique. Elle vend du tissu. Où vit-elle ? En Afrique ? Où en Afrique ? Au Sénégal ? Au Bénin. Pourquoi dites-vous Afrique au lieu de citer simplement le pays ? Demanda Ifemelu. Aïcha fit claquer sa langue. Tu connais pas l'Amérique. Tu dis Sénégal et ils disent c'est où ? À mon ami du Burkina Faso, il demande « Votre pays, c'est en Amérique latine ?» Aïcha se remit à tresser, un sourire moqueur aux lèvres, puis demanda, comme si Ifemelu était incapable de comprendre la réalité des choses dans ce pays, « Combien de temps tu es en Amérique ?» Ifemelu décida alors qu'elle n'aimait pas Aïcha. Déterminée à abréger la conversation, à n'aborder que les sujets indispensables, durant les 6 heures qui seraient nécessaires pour tresser ses cheveux, elle fit mine de ne pas avoir entendu et sortit son téléphone. Dike n'avait toujours pas répondu à son texto. En temps normal, il répondait au bout de quelques minutes, mais peut-être était-il encore à son entraînement de basket ou avec ses amis, en train de regarder une vidéo stupide sur YouTube. Elle l'appela et laissa un long message, élevant la voix, s'attardant sur son entraînement de basket. Faisait-il aussi chaud dans le Massachusetts ? Avait-il toujours l'intention d'emmener Paige au cinéma aujourd'hui ? Puis renonçant à toute prudence, elle rédigea un email pour Robinze et l'envoya aussi sec, sans prendre le temps de le relire. Elle avait écrit qu'elle rentrait au Nigeria et, bien qu'elle ait un emploi en vue, bien que sa voiture soit déjà embarquée sur un bateau à destination de Lagos, elle eut soudain l'impression, pour la première fois, que c'était réel. J'ai récemment décidé de rentrer au Nigeria. Aïcha ne s'était pas découragée pour autant. Lorsqu'Ifemelu abandonna son téléphone et leva les yeux, elle demanda d'Urchef. Longtemps tu es en Amérique ? Ifemelu prit son temps pour ranger son portable dans son sac. Des années auparavant, on lui avait posé la même question au mariage d'une amie de tante Uju, et elle avait répondu 2 ans. Ce qui était la vérité, mais l'expression moqueuse sur le visage de ses interlocuteurs lui avait appris que pour avoir la chance d'être prise au sérieux par les Nigérians en Amérique, par les Africains en Amérique, en vérité parmi les immigrants en Amérique, il fallait être là depuis plus longtemps. 6 ans, se mit-elle à dire, quand cela faisait 3 ans et demi. 8, au bout de 5. Maintenant qu'elle était là depuis 13 ans, mentir semblait inutile, mais elle mentit quand même. 15 ans, dit-elle. 15 ans ? C'est longtemps. Une nouvelle nuance de respect apparut dans le regard d'Aïcha. Tu vis ici, à Trenton ?
J'habite à Princeton.
Princeton ? Aïcha marqua une pause.
Toi, étudiante ? J'ai eu une bourse pour mes études, dit-elle. Sachant qu'Aïcha ignorait ce qu'était une bourse, et de ce rare moment où Aïcha parut intimidée, Ifemelu tira un plaisir pervers.
Oui, Princeton ?
Oui, le genre d'endroit qu'Aïcha pouvait à peine imaginer, le genre d'endroit où il n'y aurait jamais un panneau disant « Remboursement rapide des taxes ». À Princeton, les gens n'avaient pas besoin de remboursement rapide des taxes.
« Mais je retourne au Nigeria », ajouta soudain Ifemelu, pleine de remords. « Je pars la semaine prochaine. »
« Pour voir la famille ?»«
Non, je rentre définitivement, pour vivre au Nigeria.
Pourquoi ?»«
Pourquoi ?»« Comment ça, pourquoi ?»«
Pourquoi pas ?»«
C'est mieux envoyer de l'argent là-bas, sauf si ton père est un homme important. » Tu as des relations ?
J'ai trouvé un emploi là-bas.
Tu restes 15 ans en Amérique et tu rentres juste pour travailler ?
Aïcha eut un sourire narquois.
Tu peux rester là-bas ?
Aïcha lui rappelait ce qu'avait dit tante Oudjou quand elle avait enfin compris qu'Ifemelu était sérieuse en parlant de retour.
Bon, seras-tu capable de t'y faire ? Et cette façon d'insinuer que l'Amérique l'avait en quelque sorte irrévocablement changé avait planté des épines dans sa peau.
Ses parents, eux aussi, semblaient croire qu'elle ne pourrait pas se faire au Nigeria.
« Au moins, es-tu citoyenne américaine ? Tu pourras toujours retourner aux États-Unis », avait dit son père. Tous les deux avaient demandé si Blaine l'accompagnait, et leur question était chargée d'espoir. Elle s'amusait de les entendre l'interroger si souvent au sujet de Blaine, car il avait mis longtemps à s'habituer à l'idée que son ami était un noir américain. Elle les imaginait en train de faire des projets pour son mariage. Sa mère choisirait le traiteur et les couleurs, et son père penserait à un ami en vue auquel il pourrait demander d'être le parrain. Hésitant à briser leur espoir, et sachant qu'il fallait peu de choses pour l'entretenir et les rendre heureux, elle avait dit à son père « Nous avons décidé que je reviendrai d'abord et que Blaine me rejoindrait au bout de quelques semaines.
Splendide ! S'était exclamé son père, et elle n'avait rien ajouté parce que mieux valait en rester à ce splendide. Aïcha lui tira les cheveux un peu trop fort.
15 ans en Amérique, très longtemps, dit-elle, comme si elle y avait réfléchi. Tu as un ami ? Tu es marié ?
Je retourne aussi au Nigeria pour voir mon homme, répondit Ifemelu, surprise de s'entendre parler ainsi.
Mon homme.
C'était si facile de mentir à des inconnus, de créer avec eux les différentes versions de notre vie que l'on a imaginées.
Oh, ok, dit Aïcha, tout excitée.
Ifemelu avait fini par lui donner une raison simple de vouloir rentrer au pays.
Tu vas te marier ?
Peut-être. Nous verrons.
Oh oh !
Aïcha s'arrêta de tresser et la regarda dans la glace, un regard fixe, et Ifemelu craignit un instant que la femme fût douée de pouvoirs divinatoires et capable de voir qu'elle mentait.
Je veux que tu voies mes hommes. Je les appelle. Ils viennent et tu les vois. D'abord, j'appelle Shijoke. Il conduit taxi. Puis Emeka. Il travaille vigile. Tu les vois.
Ce n'est pas la peine de les faire venir juste pour me rencontrer.
Si, je les appelle. Tu leur dis qu'Igbo peut marier pas Igbo. Ils t'écouteront.
Non, vraiment, je ne peux pas faire ça. Aïcha continua à parler comme si elle n'avait pas entendu.
Tu leur dis. Ils écoutent parce que tu es sœur Igbo. Un ou l'autre, ok ? Je veux me marier.
Ifemelu regarda Aïcha. Une petite Sénégalaise au visage ordinaire, avec une peau comme un patchwork, et qui avait deux amoureux Igbo, aussi peu plausible que cela puisse être, et qui voulait qu'Ifemelu les rencontre et les incite à l'épouser. Cela aurait fait un bon poste pour son blog. Le cas singulier d'une noire non-américaine, ou comment les contraintes de l'immigration peuvent vous pousser à faire n'importe quoi.